T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-d'oeuvre. BPM Sport.
De retour dans 100% Max à BPM Sport, 10h14 minutes. On le rejoint en direct de la salle de nouvelles de TVA Sport. Nicolas Cloutier, salut.
Monsieur, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Très bien, très bien. Gros match demain.
Mazin.
Gros match demain, qui a une signification peut-être plus importante qu'on pense.
Oui, puis on affronte un club qu'on a vaincu chez nous au Centre Bell récemment, qui vont être marqués par ça, qui vont vouloir sortir fort puis rendre l'appareil aux Canadiens dans un match où l'alignement demeure encore un mystère complet. On aura la chance d'en parler dans la fin de chronique entre Texier et Engstrom, mais commençons par le rappel d'Engstrom, parce que il est rappelé, il fait partie du voyage. C'est un processus normal, cette sécurité-là, d'avoir un défenseur en extra. Mais pourquoi ça va intriguer les clubs dans la Ligue nationale de hockey, Nick?
Ben, c'est simple, ça va piquer la curiosité des clubs parce que c'est le premier rappel là, du CH qui est lié à des performances en bas. Parce que si on avait voulu une police d'assurance pour le voyage, c'est pas compliqué, on aurait rappelé Mark Delgazzo. Les équipes regardent cette situation-là et elles ne sont pas dupes, les gars. On sait très bien qu'il y a une congestion à gauche chez les défenseurs gauchers du Canadien de Montréal et encore plus si on réussit à prolonger Mike Madison au cours de la saison. Et je pense pas non plus qu'on met Adam Engstrom dans la vitrine. Mais il y a eu plusieurs recruteurs, non seulement au match du CH, mais au match du club école du CH récemment. Et du côté du Canadien, ce rappel-là te donne des informations. Alors, on va pouvoir savoir si Adam Engstrom, il a occupé un rôle de premier plan avec les Rockets, mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant au sein d'une troisième paire avec Alexandre Carrier? Alors ça peut donner des informations aux Canadiens, mais aussi donner des informations aux autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Et du côté des Canadiens, plus on a d'informations, plus on peut prendre une décision éclairée avec nos défenseurs gauchers, parce que, les gars, on se fera pas de cachette. Dans un an ou deux, ou même dans quelques mois, ben, il va en avoir un défenseur gaucher du CH qui va être échangé. Je ne peux pas dire lequel, mais les Anglos ont ce proverbe, hein, « something has to give », mais il y a quelqu'un qui va partir à un moment donné.
Ce soit Struble, Jacky ou Engstrom, à un moment donné, tu n'auras pas toujours de la place pour eux. Il y a un de ces gars-là qui va finir par être sacrifié, peut-être dans un package pour mettre la main sur un attaquant de premier plan, ou peut-être pour aller chercher un vétéran, mais c'est vrai qu'à plus long terme, surtout si David Reinbacher aussi finit par rejoindre l'équipe à Montréal. Un de ces trois gars-là, peut-être même éventuellement deux de ces trois gars-là, n'auront pas leur place. Alors, tu as besoin d'un peu de montrer leur valeur et de montrer aux autres DG, hey, ce gars-là, tu le veux, là, il peut être intéressant dans une transaction.
Puis à quel point, les gars, le portrait a changé au travers des dernières semaines, parce que on se reporte au début de l'année, là. Matheson, avant même qu'on ait joué un match, là, on sait qu'on va devoir signer Matheson à quelque part à un moment donné dans la saison. Ouais. On connaît Arber Jacky comme un des bagarreurs les plus durs dans la Ligue nationale de hockey, puis on le compare beaucoup à Struble. Il y a des gens qui sont dans le camp de Jacky, des gens qui sont dans le camp Struble. Là, Jacky perd deux combats, bam, aux yeux de plusieurs, sa vitesse, sa valeur baisse. Lui, Struble, se découvre une passion pour laisser tomber les mitaines. On dirait que sa valeur augmente. Puis là, on rentre dans une discussion. On va en parler dans le prochain bloc. Il va falloir que tu signes Matheson, combien ça vaut. Fait que, tu sais, 20 matchs de jouer, le portrait est tellement différent de ce qu'on entrevoyait en début de saison pour les défenseurs chez le Canadien.
Oui, et cette hiérarchie-là peut continuer de bouger. Là. Écoute, on va peut-être pas utiliser Adam Engstrom tout de suite. Mais il arrive quoi après si Engstrom? Parce que tu sais, la grosse question avec Engstrom, là, c'est vraiment différent. Là. Toute sa carrière, ce gars-là était un défenseur top 4 offensif. Mais tout de suite avec les Canadiens, c'est pas ça qu'on va lui demander. Et c'est la grosse réponse qu'on essaye d'aller chercher chez les Canadiens. Mais s'il offre cette réponse-là, et la réponse, c'est de savoir maintenant, là, tu utilises sur une troisième paire. C'est complètement différent comme identité. Si Engstrom livre la marchandise et réussit à épauler Alexandre Carrier, à donner un peu plus de latitude à Carrier avec son coup de patin, avec sa mobilité, bien là, la donne change complètement, à mon avis, les gars. Et je peux vous dire, là, les recruteurs qui ont vu Adam Engstrom dans les dernières semaines ont été particulièrement emballés. Je le rappelle, ça va piquer la curiosité de certains clubs. Il y a même un club qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, oui, est-ce qu'il va jouer des matchs, tu penses, dans le National bientôt, Adam Engstrom?
Ouais.
Alors, on va suivre ça. Là.
Parce que c'est quand même quelqu'un qui, je dirais, a plus à offrir niveau hockey qu'un Herbert Jacky. Il patine mieux, meilleure relance. C'est un gars avec une meilleure vision de jeu. T'sais, en ce moment, Jacky, c'est ça le problème. C'est qu'il est dans l'alignement à cause de l'aspect physique. Mais en tant que joueur de hockey, il s'est fait dépasser par Struble depuis le début de la saison.
Ouais, je pense que oui.
T'sais, c'est...
Je pense que c'est fair.
Struble est plus efficace, je pense, dans son jeu. C'est pas sexy, Jaden Struble.
Mais c'est le genre de défenseur qu'il faut pas que tu vois. Faut qu'à la fin du match, là, si t'es pas vu, tu regardes la fin de pointage, ils ont 3-4 mises en échec, ils ont un temps de jeu à 10, 12, 13 minutes. T'sais, job is done, tu te frottes les mains, puis t'as eu ce que t'avais à avoir de ces joueurs-là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'sais, Kent Hughes pourra pas toujours plumer tout le monde dans les échanges. À un moment donné, il va falloir que tu donnes du monde que t'as pas envie de donner. Puis tu sais, je vais faire le pont avec Emil Heinemann parce qu'on aura la chance d'en parler des défenseurs. Convaincu qu'Emil Heinemann, on voulait pas le laisser aller chez le Canadien.
Ben, je te confirme. Puis la première offre qu'on avait faite, je veux souligner le travail de Mathieu Darche là-dedans parce que la première offre du CH, elle ne contenait pas Emil Heinemann. Elle contenait un espoir que j'ai pas le droit de nommer et évidemment les deux choix du CH. Mais ce qui est arrivé, c'est que du côté de Mathieu Darche, on voulait absolument Emil Heinemann. Et c'est ce qui a forcé la main aux Canadiens, c'est que l'offre des Blue Jackets, elle contenait Voronkov et les deux choix des Blue Jackets. Hey, alors, à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu as le choix de bonifier? Ben non. Alors, on a extirpé Heinemann des Canadiens du côté de Mathieu Darche. Je le répète encore, les gars, pour moi, une bonne transaction, si tu veux continuer à en faire aussi après avec tes homologues, c'est une transaction qui fait l'affaire des deux clubs.
Mais
je pense que les Islanders, là, ce matin, là, sont super contents d'avoir Heinemann, sont super contents d'avoir Victor Hedlund, sont super contents d'avoir Keyshawn Hutchinson. Et du côté des Canadiens, il n'y a personne qui se plaint d'avoir Noah Dobson en ce moment. C'est ça, une bonne transaction. Tu sais, en passer une petite vite à son homologue, là, c'est bien une fun une année, là, mais après, prends le téléphone, là, puis à la prochaine date limite, quand tu as besoin d'aide de la part de ce même homologue-là, ben, je vais te souhaiter bonne chance.
Ouais, totalement. Puis tu sais, Kent Hughes est fair dans ses échanges. Il est magistral dans ses négociations de contrat. Puis je pense qu'on a évalué qu'on pouvait laisser Heinemann aller parce qu'à cette position-là, on pouvait à court moyen terme la combler avec d'autres espoirs. Sauf que c'est sûr que de loin, on regarde la saison d'Heinemann à New York puis on fait « Hey my God, on l'aurait pris ». Tu sais.
Ouais, on aurait besoin de lui en ce moment. Un gars de quatrième trio qui est capable de frapper, d'appliquer un échec avant, de marquer des buts. Je crois qu'il est rendu à quoi? 9 buts en 23 mats avec les Islanders.
Avec son prochain but, Oli, il va égaler son sommet avec les Canadiens en 60-quelques matchs la saison
dernière. Déjà, puis on est à la fin novembre. Là. Alors, il risque de marquer une vingtaine de buts, 25 buts, puis je pense que ça va être ça pendant longtemps avec les Islanders. C'est quand même un bon coup là, de Mathieu Darche. C'est sûr que ça compensera jamais la perte d'un Noah Dobson, qui est un défenseur numéro 1. Mais Emil Heinemann va être un sacré bon joueur pendant longtemps pour New York.
Mais écoute, je suis d'accord avec vous, les gars. Tu prends Emil Heinemann dans la formation des Canadiens demain matin, mais vous poserez aussi la question, le CH serait quoi sans les 22 minutes de Noah Dobson?
Ah, c'est sûr.
Ça ferait dur en maudit. Là.
Ben oui, surtout avec la blessure à Goulet. Une chance qu'il est là. Lui, il est capable d'en manger des minutes. Puis on l'a vu dans le match contre Toronto, quand il se met à plus tirer au filet, il est tellement plus dangereux. Ouais, il y a un tir qui est tellement puissant. Moi, j'espère qu'on va le voir prendre plus de galons offensivement dans les prochaines semaines pour vraiment voir le général qu'il est capable d'être.
Mais c'est un excellent général, puis c'est un gars qui promène bien la rondelle, mais je pense que, tu sais, souvent, là, on regarde la colonne de stats d'un joueur sans nécessairement l'avoir vu jouer, puis on se dit, mon Dieu, il doit être éclatant. Tu sais, Dobson, c'est pas un coast-to-coast guy. Là. C'est pas un gars qui ramasse la rondelle en arrière du filet, qui déjoue tout le monde, qui en sort 2-3 de ses bottines. C'est un gars qui est efficace parce qu'il perd rarement la rondelle. Il la distribue de bonne façon et il t'a un lancé du Saint-Tabarouette. Ça n'a aucun bon sens. Parlez-en à Charlie McAvoy.
Ça rentre ou pas, ce lancer-là. Laissez-moi vous dire, j'avais un peu peur, moi, quand l'entraînement s'est amorcé, puis les partisans découvraient Noah Dobson parce qu'on avait ça en tête, là, les 70 points avec les Islanders. Et c'est juste que, tu sais, nous, quand on pense aux 70 points, on pense aux 70 points, mettons, de Lane Hudson, mais tu sais, c'est tellement la différent comment ils vont les obtenir. Il y a aussi le fait que Noah Dobson, fallait que les gens s'habituent. C'est pas quelqu'un qui va donner des mises en échec. C'est pas sa game, mais il va réussir quand même à aller y prendre le porteur au corps, à bien utiliser son bâton, puis s'en sortir. C'est juste que Noah Dobson, quand il va marquer ses deux buts, il y a personne qui va s'en plaindre. Là. Mais quand il va être moins 3, puis quand il va traverser une mauvaise séquence, et là, tout le monde va le traiter de mou parce que c'est pas dans son style de donner une mise en échec. Mais il va falloir juste l'accepter comme il est, puis il est très efficace pour le Canadien de Montréal.
Là, on regarde l'entraînement du Canadien d'hier. Alexandre Texier et Adam Engstrom, on les utilise où et quand dans ce voyage-là?
C'est une méchante bonne question. Je pense que, tu sais, du côté de Martin Saint-Louis, Il y a tout le temps une espèce de méritocratie dans une équipe.
Il faut.
On va donner l'occasion aux joueurs qui sont dans la formation en ce moment de soit conserver ou perdre leur poste. Et ça, c'est positif. C'est un win-win aussi parce que je peux te dire que maintenant que Texier a été amené, ben, tu as des jeunes comme Davidson et Florent Jacquard qui vont encore plus manger les bandes parce qu'on sait qu'au moindre mauvais match, Martin Saint-Louis va saisir la moindre occasion pour rentrer Alex Texier dans la formation. C'est la même affaire du côté de Jaden Struble. C'est la même affaire du côté d'Arber Jacquard parce qu'on sait que Adam Engstrom n'est pas trop loin. Alors, il y a une partie de ça qui est bon, on va vous amener à l'entraînement, on va vous laisser vous acclimater un peu au groupe, à nos systèmes, même s'ils sont semblables à ceux du Rocket. Mais une autre partie qui est, on va laisser à tout le moins la chance aux réguliers de garder ou perdre leur poste, puis la compétition interne va juste rehausser le club.
Oui, tu fais bien de le dire, parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui manquait aux Canadiens dans les dernières semaines. Tu sais, c'était les 12 attaquants, c'était les 6 défenseurs, puis il n'y avait personne qui se cassait la tête sur qui va jouer, qui va pas jouer. Ouais. Ah, Joe Veleno, ça va un peu moins bien. Il faudrait peut-être le retirer de l'alignement. Tu n'avais pas d'autre option. Mm-hmm. Mais là, Martin Saint-Louis a cette carte-là dans son jeu de ben, je peux avoir un peu plus une méritocratie. Puis s'il y en a un qui connaît pas un bon match, ben je peux faire jouer Texier, je peux faire jouer Engstrom. Puis ça, c'est juste sain pour l'équipe d'avoir cette compétition-là.
Il faut pas se gêner de faire ça. Tu sais, cette fameuse culture-là de on est un si beau groupe, on s'aime, puis tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Là, c'était cute l'année passée, mais là, cette année, quand tu aspires au prochain niveau, il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de faire ben toi, je te sors dans l'alignement, tu vas manger du popcorn pendant une partie, toi, t'embarques. Donne-moi une raison de jamais te sortir de l'alignement. Tu sais, Florent Jacquard, là, sa job, c'est pas de rester dans l'alignement, c'est de pas sortir. C'est pas la même chose. C'est de pas donner de raison à ton coach de te sortir de l'alignement.
C'est dangereux des joueurs qui sont constamment heureux dans une saison. C'est important que ton ego, à un moment donné, soit un peu blessé, que tu vives un peu d'adversité parce que, tu sais, à travers une saison de 82 matchs, là, ça peut devenir redondant, là, mais comme. Il faut qu'il y ait quelque chose, là, une espèce de motivation intrinsèque à un moment donné qui te permet d'amener un peu plus de FU dans ton match. Puis si après, tu es flatline dans tes émotions pendant toute une saison, ben, tu ne vas pas aller chercher ça. Moi, je pense que c'est un bon élément ici qu'on vient chercher avec l'espèce de compétition interne.
Hey, on va ouvrir la discussion du prochain bloc avec toi, Nick. Oli, sors-moi l'extrait, s'il te plaît, de ce podcast, d'une plateforme de la presse. Dans le podcast, il y a Guillaume Lefrançois, il y a Richard Labbé, il y a son enfant, son 7 alentour de la table, et il y a Antoine Roussel, et on parle de la négociation de contrat à venir de Mike Matheson. Parce qu'en début de saison, on lui a demandé, as-tu des discussions, il y en avait eu, est-ce que ça avait avancé? Finalement, non. Selon Antoine Roussel, combien vaut Mike Matheson? On écoute.
C'est fou de se dire que ce gars-là, si on lui avait proposé probablement 8 ans, 9 millions au début de l'été, ou ben, tu vois, quand il pouvait signer son extension le 1er juillet, il aurait pensé solidement. Hein. Surtout que les gros canons n'étaient pas signés encore à ce moment-là.
8 ans, 9 millions par année?
Ça va être ça.
Hein. Tu penses?
Ça
sent pas
en bas de ça.
Attends, 8 ans, 9 millions.
Il va
millions.
Avoir 32 ans.
C'est, non, mais c'est peut-être pas 8, mais j'ai poussé fort en disant 8.
Non, 9
mais
millions non plus,
c'est,
je pense
c'est
pas.
Gros 9.
Moi, je pense, mais les gars, je pense que... Moi, je suis convaincu qu'il va aller chercher 9 millions.
C'est balado sortie de zone de la presse avec Antoine Roussel que vous entendez. Et Antoine Roussel dit 8 ans, 9 millions par année pour Mike Matheson. Est-ce qu'on va aller là?
En passant, bon, le 8 ans, il est peut-être un peu fou, mais le montant en ce moment ne l'est pas. Écoute, c'est un gars qui, avec les Canadiens, jouait près de 30 minutes par match là, dernièrement. Là. Mike Matheson, ce qu'il apporte, là, c'est extrêmement important. L'affaire que je vais vous soumettre, par exemple, les gars, 9 millions, ça veut dire que Mike Matheson joue ailleurs l'an prochain. 9 millions, ça, il peut obtenir ça. Il peut obtenir ça. J'ai aucun doute qu'il peut obtenir ça sur le marché des joueurs autonomes. Mais, tu sais, Kent Hughes l'a déjà affiché ses couleurs là, dans sa structure salariale. T'sais, tu veux rester, ben, il va falloir que tu en mettes un peu de côté. T'sais, 9 millions, c'est pas viable. C'est juste pas viable pour le Canadien de Montréal. Puis c'est correct. Okay? T'sais, le Canadien a ses besoins, a sa structure. Puis Mike Matheson a peut-être ses propres besoins. Mais je pense juste pas que ça peut fonctionner avec le Canadien 9 millions. Ça veut pas dire qu'il ne mériterait pas. Ça veut pas dire qu'il peut pas aller chercher ailleurs. Ça, j'en suis convaincu. Mais on va être en bas de 9 millions là, t'sais, s'il prolonge à Montréal. Ça je suis pas mal sûr.
Ça, c'est officiel. Ben hâte de voir ce que nos auditeurs en pensent. Nick, un gros merci de ton temps. On te retrouve jeudi pour une autre édition de Nicolas Cloutier dans 100% Max.
Salut les gars.
Salut Nick Cloutier de TVA Sport que vous pouvez lire sur le tvasport.ca. On va aller à la pause par texto 514-790-0919. Les gens au web, s'il vous plaît, Hugo, un petit sondage YouTube prendrait ça. Combien vaut Mike Matheson, selon vous, à sa négociation de contrat? Est-ce que ça, le barème, là, on va le mettre, mettons, à 9 millions. 9 millions ou plus ou moins de 9 millions? Est-ce que c'est logique de penser ça? 9 millions de dollars pour Mike Matheson. Vous êtes dans 100% max, on revient dans deux minutes, bougez pas.